Radio Campus, Radio Béton, Radio Active en direct du festival Désir Désir.
Vous êtes donc toujours en direct du festival Désir Désir. Nous sommes depuis la bibliothèque des studios cinéma, donc Radio Active, Radio Béton et Radio Campus, comme vous lisez ce petit jingle juste avant. Et pour donc poursuivre l'émission, nous accueillons tout de suite Johan Moulin, claveciniste, donc qui nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Johan. Et donc pour t'interviewer, Alexandre, à mes côtés, qui a préparé son interview, qui est prêt. Vas-y, c'est
très bien.
À toi.
Bonjour à tous et bonjour Johan Moulin.
Bonjour.
Alors, comme l'a dit Mathilde, vous êtes claveciniste, c'est bien ça?
C'est exactement ça.
Ce n'est pas commun.
Non.
Alors, quelle est la place, je me demandais un petit peu, du clavecin dans la musique d'aujourd'hui? Est-ce que vous reprenez surtout des musiques déjà existantes presque du siècle dernier ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'il y a aussi une place à la nouvelle composition, en quelque sorte?
Alors, les deux.
Ouais.
Le clavecin a une place un peu étrange, un peu particulière, un peu singulière dans l'imaginaire du public que j'ai pu rencontrer. Ça fait 15 ans maintenant que je joue. Et c'est vrai qu'il convoque toujours un imaginaire un peu fantasmé, souvent fantasmé, en fait, de l'instrument de Marie-Antoinette, avec des femmes en robe, avec des seins nus, très attaché à la monarchie, toujours rattaché à cette période-là de la fin du XVIIIe. Après, dans le monde de la musique en tant que tel, il n'est pas forcément très connu. Souvent, on pense qu'il a disparu. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de musique qui est écrite pour le clavecin. La France est le pays au monde, je suis quasiment certain, le pays au monde où il y a le plus de concerts de musique qu'on appelle ancienne, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, il est vraiment présent, et les compositeurs contemporains se sont emparés de par la célébrité dont il fait l'objet. Les compositeurs contemporains s'en sont emparés et donc écrivent pas mal pour cet instrument, et notamment, enfin, globalement, plus globalement, pour tous les instruments anciens, les violons baroques, les flûtes baroques, les hautbois baroques, les orgues baroques. Voilà.
Très bien. Vos études, votre expérience sont assez impressionnantes. Peut-être que vous voulez revenir un petit peu dessus pour que nos auditeurs sachent un peu plus qui vous êtes, mais comme vous voulez. Peut-être que ça vous embête, je suis conscient que ça peut être un peu...
Non, je vous en prie, si ça m'embêtait, je vous le dirai. Alors, mon parcours, mes parents sont infirmiers, pas du tout musiciens. J'ai appris la musique à la maîtrise de Caen, qui est un chœur d'enfant, en fait, parce que ma mère voulait qu'on fasse de la musique. Et donc, c'était des classes à horaires aménagées. Donc, j'ai baigné dans un environnement musical quotidien et très facile. Donc la musique a toujours été pour moi quelque chose de normal, entre guillemets. Voilà. Même si je ne viens pas d'une famille de musiciens. Voilà, j'ai découvert le clavecin à Caen, donc au sein de cette maîtrise. Ensuite, je suis allé à Paris, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Et là, j'ai rencontré beaucoup d'autres clavecinistes, beaucoup d'autres musiciens. Et j'ai vécu là-bas ensuite. Et voilà, au fil des rencontres, au fil des stages, au fil des professeurs très marquants, d'amitié, j'ai évolué dans ce chouette milieu qu'est le milieu de la musique ancienne.
Oui, la musique ancienne. Et du coup, je me demandais, entre votre style, votre couleur et la transparence dont vous devez vous incarner un peu pour jouer une œuvre, comment vous appréhendez une œuvre? Comment vous allez à elle pour après la jouer devant un public ou l'enregistrer?
Alors, c'est une très belle question. C'est rigolo parce que je lisais il n'y a pas longtemps L'Orientalisme d'Edouard Saïd, et il cite une phrase de Eric Auerbach, qui est un philologue allemand du début du XXe. Et cette phrase-là qui définissait la philologie, c'est exactement ce que je faisais moi au clavecin quand je travaillais une partition. C'est-à-dire que j'ai un texte devant moi et j'essaye d'en tirer des éléments objectifs, de construction, de structure. Mais évidemment, c'est aussi lié à ma subjectivité. Et je me souviens plus de la phrase d'Auerbach, évidemment. C'est dommage, mais bref, j'ai un texte, j'essaie d'en comprendre la structure, j'essaie de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur par tous ces petits indices de virgule, de ponctuation, d'imitation, de rythme. Et voilà, j'essaie de dégager un sens de tout ça. Voilà. Ouais. C'est une entreprise assez littéraire, finalement.
Vous jouez le 25 janvier au théâtre du Rossignolet à Loche. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous allez jouer ?
Alors, il y a plusieurs pièces dans ce programme. Il y a musique française, il y a musique allemande. Il y a même une petite pièce anglaise de la fin de la Renaissance. Le cœur du programme, c'est quand même la musique allemande. 17e, début 17e, avec des compositeurs comme Matthias Weckmann, par exemple. C'est la période qu'on appelle la période du Stilus Fantasticus. Donc c'est un moment dans l'écriture musicale où ils essayent vraiment d'impressionner, d'avoir des gestes rhétoriques vraiment très très forts, très très extrêmes. Et donc ça donne des pièces très bizarres, très baroque au sens premier du terme, très irrégulière, très fantasque. Et tout le programme tourne autour de cette période-là, début 17e, à part la pièce anglaise. Et c'est vraiment la musique étrange. J'aime beaucoup cette musique.
D'accord. Oui, étrange en musique ne veut absolument pas dire mauvaise ou quoi que ce soit.
Non, non.
Et du coup, j'ai une petite question, vu que tout de même, nous sommes au Festival Désir-Désir. De grands philosophes comme Schopenhauer ou Platon décrivaient la musique comme incarnation du monde. Comment jugerait-elle les différences de désir, de genre, de sexe, à votre avis ?
C'est ce que j'ai écrit dans mon petit texte de présentation. Est-ce que la musique a un sexe ? C'est une très très bonne question. J'ai pas la réponse.
Sexe, non, mais peut-être comment elle juge par exemple, la fausseté. Est-ce qu'une musique peut être fausse ? Non, en fait. Une différence incarnée un peu qui n'est pas néfaste en aucun cas.
Ouais. Carrément.
Ouais. Mais moi, je veux dire pareil. Ouais, aussi. Parce que...
Non, mais... En fait, c'est facile de faire dire beaucoup de choses à la musique. À la Renaissance, par exemple, on s'amusait à prendre des messes. Le même compositeur pouvait composer une messe. Et sur cette messe, il pouvait composer ensuite, avec les mêmes notes, ce qu'on appelle un contrafactum. C'est-à-dire qu'il prenait la même musique, il changeait les paroles, il mettait des paroles parfois très grivoises dessus. Et c'est la même musique. Alors, pas interprétée pareil. Mais donc, Ça veut dire qu'on peut faire dire beaucoup de choses à la musique. Ça contredit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur ma façon de la travailler. Je pense qu'il y a aussi une part de décision de l'interprète de créer une cohérence. Il y a une volonté de faire sens. Et pour créer un langage qui fait sens, il faut prendre la décision de créer une cohérence. Mmh. Donc moi, dans mon travail de musicien, j'ai une approche que j'essaye d'être cohérente. Donc j'essaye d'être stable, constant. Et donc toutes les pièces que je travaille, que ça va de la Renaissance jusqu'à... Ça peut même aller jusqu'au 20e aujourd'hui. Ça participe du même système de comment je conçois le langage musical. Après, ça restera jamais que ma façon de le concevoir.
Bien sûr. Voilà. Pour finir, est-ce que vous êtes en enregistrement en ce moment ou il y a un disque qui est en train de se créer peut-être ?
Il y a un disque qui va être enregistré au mois de mai pour le label Richard Carr, justement autour de la figure de Matthias Weckmann. Donc c'est le deuxième opus d'une série de disques qui est consacrée à la musique allemande, qui va donc du de la fin de la Renaissance avec Scheidemann et Scheidt jusqu'à Bach, une sorte de ligne d'horizon. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Johan Moulin.
Je vous en prie. Merci à vous.
On vous retrouve donc le 25 janvier du côté de Loche au théâtre du Rossignolet. Et pour en informer encore plus nos auditeurs, nous allons écouter un morceau de vous, Johan Moulin, qui s'intitule Toccate, partite d'intavolatura.